Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans RFI Soir, suite de notre journée spéciale Goodbye Obama. C'est dans quelques heures que le président des États-Unis prononcera son dernier discours en tant que locataire de la Maison-Blanche. L'occasion pour nous, dans le débat, de revenir sur la réforme de l'assurance maladie dont il a fait la priorité absolue de son premier mandat. On l'appelle plutôt l'Obamacare. Elle a été votée en 2010 à l'issue d'un combat parlementaire, il est vrai, d'une rare violence. Grâce à cette loi qui oblige chaque Américain à disposer d'une assurance maladie, qui interdit aux assureurs de refuser les malades ou les personnes à risque, eh bien le nombre d'Américains sans couverture santé a chuté de 16% en 2010 à 8,9% aujourd'hui. Mais la réforme, attention, évidemment, on va en parler, n'a pas que des avantages. Du coup, Donald Trump et son vice-président veulent l'abroger. Écoutez Mike Pence.
The first order of business.
Notre priorité absolue est de retirer et remplacer Obamacare. Ce doit être fait car Obamacare est un échec et a été rejeté par le peuple américain. Le moment est venu de tenir nos promesses.
Now it's the time to keep our promises.
L'Obamacare survivra-t-il à la présidence Trump? C'est donc notre débat du jour. Bienvenue. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio deux invités. Soufiane El-Sabbagh, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste des affaires intérieures américaines du Parti Républicain. Vous tenez un blog, La Quatrième Voix, sur l'actualité politique américaine. Et puis vous êtes l'auteur de La Nouvelle Droite Américaine, un livre paru aux éditions Demopolis. En face de vous pour en débattre, pour discuter, Jean-Éric Brana, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, maître de conférences à l'Université Paris de Assas, auteur de Qui veut la peau du Parti Républicain aux éditions de Passy.
Alors, excusez-moi si vous me permettez, l'Amérique selon Trump qui paraît demain.
Ah, et ben voilà, on est pile dans l'actualité, c'est parfait. Alors justement, Jean-Éric Brana, quel regard vous portez sur l'Obamacare? Alors c'est peut-être difficile de faire déjà un bilan, puisque finalement c'est une réforme qui n'est pas très vieille, qui porte ses fruits, qui commence à peine à les porter, mais est-ce que pour vous le bilan il est plutôt positif ou plutôt négatif?
Ben oui, puisque cette réforme a 3 ans et 10 jours aujourd'hui, puisqu'elle est rentrée en vigueur le 1er janvier 2014, même si effectivement elle a été votée en 2010. Alors le bilan, écoutez, il y a 2 strates pour faire ce bilan. D'abord, on peut dire que c'est une chose très importante et une vraie avancée, puisque comme vous l'avez fait remarquer, 20 millions d'Américains sont maintenant assurés, eux qui n'avaient aucune assurance, et on se rend pas très bien compte de ce que ça représente, mais aux États-Unis, aller chez un médecin généraliste, ça coûte $200. Aller à l'hôpital, ça peut coûter jusqu'à $1 million. Ça va très très vite.
Une échographie, je crois, $800.
Oui, mais un accouchement avec césarienne, je ne parle pas de choses absolument extraordinaires. Hein, ça peut arriver avec quelques complications, $1 million. Donc vous y laissez tout, votre maison, vos plumes, tout ce qu'il y a avec. Hein. Donc effectivement, c'est pas une petite chose que de dire qu'on va être couvert par une assurance santé. En même temps, on va avoir le temps de discuter un petit peu ce soir, mais une fois qu'on a dit ça, on va regarder l'autre côté, puisque si les Républicains sont contre cette réforme, c'est qu'elle a aussi des défauts. Et il faut dire que ces défauts peuvent être importants quand même. Alors pour les Républicains, il y a d'abord une question de principe, qui est l'individualisme.
Attendez, vous n'allez pas trop vite.
Non, je ne vais pas trop vite. Mais j'essaie de placer juste les choses. On va parler de cette obligation. On rentrera un petit peu dedans dans les défauts parce que il y en a à tel point que les grandes sociétés qui aujourd'hui assurent l'Obamacare, c'est-à-dire les assurances comme Aetna, United Health ou Humana par exemple, se désengagent de l'Obamacare et aujourd'hui ces assurances coûtent une fortune. Juste un chiffre sans assommer de chiffres, mais sur cette année, la plupart des Américains ont la surprise d'avoir une augmentation de leur prime annuelle qui peut aller jusqu'à 68% au Texas. Rendez-vous compte si quelle que soit la dépense que vous avez en cours augmenter brutalement de 68%.
Oui, c'est colossal. Alors, votre avis, Soufiane El-Sabbagh, est-ce que vous êtes d'accord? Finalement, il y a 2 strates. Il y a d'abord le côté vrai avancé, c'est 20 millions d'Américains, un peu plus. Hein, d'ailleurs, les chiffres ne sont pas
23,
toujours
ouais,
les mêmes. Voilà. Il y a ça. Et puis, il y a aussi beaucoup de défauts. Qu'est-ce qu'il y a plus? Plus de défauts, plus de qualité? Comment vous qualifieriez le bilan?
Écoutez, très honnêtement, il est trop
tôt pour en juger. Encore une fois, la réforme a 3 ans, donc on peut pas juger des effets pratiques de la loi sur une période aussi courte, d'autant plus que peut-être que dans 3 mois, l'Obamacare, ce sera plus qu'un doux souvenir. Il faudra attendre de voir ce que les Républicains souhaitent faire. Maintenant, pour comprendre ce que c'est l'Obamacare, je pense que c'est important de le rappeler, vous avez à peu près 50% des gens qui sont assurés aux États-Unis grâce à leur employeur, à peu près 30% des gens qui sont assurés grâce à Medicare et à Medicaid, et le pari de Barack Obama, en 2008, lorsqu'il se fait élire, c'est de dire que les 20% restants, on peut en assurer au moins la moitié. Et ces 23 millions de personnes sont aujourd'hui couvertes, avec tout ce que Jean-Éric a fort juste titre rappelé. Et oui, c'est une avancée, c'est totalement incontestable.
Et donc là, le bilan, il a été gagné, 1 sur 2, l'objectif, il a été tenu?
Oui, absolument. Aujourd'hui, encore une fois, 10% des gens qui ne sont pas encore assurés, on parle notamment des immigrés illégaux, on parle notamment des gens qui n'ont tout simplement pas voulu sign up, souscrire à Medicare, des gens notamment jeunes, sans enfants, qui vivent seuls, qui n'ont pas voulu payer les premiums d'Obamacare et qui ont payé, je dirais, une sorte de taxe pour ne pas avoir rejoint le programme. Mais effectivement, dans l'ensemble, cette réforme est une bonne réforme, le principe en est bon, même si on a des histoires, et elles ont été comptées lors de la campagne de l'an dernier, de familles qui sont retrouvées à payer 10 000 dollars de premium à l'année pour se faire assurer. Et donc ça, effectivement, c'est un problème.
Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous dites le bilan est difficile pour l'instant à dresser, et que la population américaine est elle-même très très divisée sur le sujet. En gros, c'est 50-50 à peu près, Jean-René Wana.
C'est ça. Ça dépend si vous avez une conscience politique ou pas, presque, puisque il y a effectivement la première contrainte, c'est que c'est une obligation. Mm-hmm. Et pour la plupart des Américains, on va dire 50% des Américains, il est hors de question que l'État vous impose quoi que ce soit qui est de la sphère privée. Et un Américain réagit d'une façon assez simple, il dit mais pourquoi diable irais-je payer pour mon voisin qui est malade alors que moi je suis en bonne santé.
Et alors ça, c'est vraiment contraire, j'allais dire, à l'esprit américain, ou bien c'est une pédagogie qui n'a pas été faite comme elle a pu être faite il y a des années en France, en Europe par exemple?
Oui, en France, ça s'est pas fait non plus du jour au lendemain, puisque la sécurité sociale, elle a pris du temps, c'est ça, elle a pas été universelle tout de suite. Hein. D'abord les salariés fonctionnaires, et puis ensuite les autres, 20 ans plus tard. Mais c'est pas qu'une pédagogie, c'est vraiment ancré dans l'esprit américain, qui passe d'abord par l'individualisme, et puis le respect de la vie privée et de la sphère privée. L'État n'a pas à rentrer dans la sphère privée. Ensuite, il y a autre chose qui s'ajoute, on va rentrer dans le débat, mais sur le plan politique, savoir si c'est l'État fédéral ou les États fédérés qui vont s'occuper de cette question-là, parce que c'est pas non plus la même chose. Savoir si c'est un État fédéral surpuissant qui va imposer à tous les Américains de façon aveugle, ou si les États fédérés peuvent décider.
Et alors sur ce point-là, vous pensez que à qui incombe cette responsabilité?
Ah, moi personnellement, je suis pas américain, donc je suis pas dans ce débat-là.
En tant qu'analyste, à votre avis,
mais c'est vraiment une question, c'est une vraie question politique. Ah, c'est totalement la différence que vous avez depuis la création des États-Unis et aujourd'hui entre les démocrates et les républicains, en caricaturant. Mais depuis toujours, Jefferson pensait que ça devait plutôt être au niveau des États de décider les choses. Adams, en face de lui, pensait que c'était plutôt à un État qui devait ensuite redistribuer.
Absolument. On se souvient à Sabac, vous partagez cette analyse, c'est très clivant aux États-Unis.
Ah, c'est formidable, c'est... Et pourquoi, au fond, Trump, la première mesure dont il parle et sur laquelle il va agir, c'est Obamacare. C'est que, au fond, vous touchez le cœur de l'Amérique. Vous touchez au cœur de ce qu'est l'Amérique. L'Amérique de Benjamin Franklin et de Adams, d'un côté, qui disent dans la vie, il y a 3 choses qu'on peut pas éviter. Il y a 2 choses qu'on peut pas éviter, c'est la mort et les impôts. Et face à ça, vous avez Jefferson, vous avez les républicains de Reagan, Trump, qui disent ne touche pas, surtout... Pas d'impôts, j'en veux pas. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en 2012, la Cour suprême, qui valide définitivement Obamacare, elle valide cette loi sur le fait que l'État a le droit, en tant que taxing power, pouvoir de taxation, d'obliger les gens à payer un premium pour souscrire à Obamacare. Donc au fond, la Cour suprême donne raison, non pas aux républicains, non pas à Jefferson, mais historiquement à Adams et tous ceux qui accordent plus de pouvoir à l'État fédéral plutôt qu'aux États fédérés.
Et ça n'est pas très bien passé. On va peut-être se venger aujourd'hui. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Vous disiez 3 mois, hein, ça vous semble crédible.
Oui, bon, après, Très honnêtement, personne ne peut dire aujourd'hui combien de temps ça va prendre. C'est un process qui sera extrêmement compliqué. Les démocrates, on l'a vu, se sont positionnés pour essayer de ralentir le processus au maximum. Ils ont les moyens de le faire. On ne sait pas si ça va se faire en 3 mois, en 6 mois, peut-être plus. Il faudra attendre de le voir, mais compliqué pour eux de l'éviter.
Alors, à ce sujet, nous allons justement écouter le chef de file des démocrates qui s'appelle David Schumer.
Les républicains complotent et mettront bientôt à exécution leur assaut sur les 3 piliers qui fondent notre système de santé. Leur plan pour anéantir la loi sur la santé ne rendra pas sa grandeur à l'Amérique, mais nous ramènera à une Amérique malade et nous provoquera le chaos.
Jean-Éric Brana, le chaos, c'est ça? On se dirige vers ça? Les démocrates vont pouvoir faire quelque chose?
On est déjà dans le chaos, figurez-vous, puisque effectivement, c'est la loi numéro 1, c'est HR1, la House Resolution 1, la première qui est proposée au Congrès. C'est hautement symbolique. Alors, ça va pas durer 3 mois, c'est déjà fait pour certaines dispositions budgétaires qui sont quasiment votées là dans la semaine, mais ce ne sont que des dispositions. Savoir s'il y a un démantèlement, je crois que ça va prendre même plus que 3 mois, plus que 6 mois, plus qu'un an, ça va être très très long. Tout simplement parce que pour enlever une telle réforme, il faut redonner à ces gens qui sont couverts aujourd'hui la
Bien
même
sûr.
Chose. Vous pouvez pas du jour au lendemain leur dire, bah écoutez, si vous avez un cancer, tant pis, débrouillez-vous, aujourd'hui vous n'êtes plus couvert. C'est pas possible. On a parlé en introduction des coûts de la santé aux États-Unis. C'est juste pas possible.
Et donc ce que vous êtes en train de dire finalement, c'est qu'il n'y a pas vraiment un débat au sein des Républicains sur est-ce qu'on doit le faire ou est-ce qu'on doit le faire. Tout le monde considère qu'il faut abroger cette loi. La question c'est comment et vers quoi, quel autre système
non,
on va
Ce que je disais, pardon Sofiane, mais c'est ce que je voulais dire, c'est que c'est d'abord une question de principe pour les Républicains. Ils ont déjà enlevé cette loi 62 fois. C'est pas nouveau. Sur les 3 dernières années, 62 fois au Congrès, ils ont voté pour mettre fin à l'Obamacare. Il se trouve juste que le président des États-Unis a un pouvoir de veto, donc il peut l'opposer. Ou alors ça a été tué par les filibusters, qui est une procédure d'obstruction au Sénat, qui a fait qu'on a arrêté tout ça. Mais c'est devenu une question de principe. Il faut le faire. Quand on est républicain, ça passe par ça. Donald Trump n'a fait que répéter ce leitmotiv républicain. Il l'a même certainement annoncé, c'est ce que je disais, en n'y croyant pas spécialement lui-même. D'ailleurs, quand il est arrivé, il a commencé par expliquer qu'il y avait des dispositions qui étaient bonnes et qu'il allait garder, en oubliant que s'il enlevait la disposition elle-même, il enlevait le principe d'individualisme qui oblige à adhérer à ce système, et donc il ne peut rien garder puisqu'il n'oblige plus.
Donc ça, c'est intéressant. Vous êtes en train de dire finalement, on pourrait pas, alors excusez-moi pour le terme qui n'est pas très joli, saucissonner la réforme en gardant certaines des dispositions qui sont intéressantes et populaires. Il y en a deux, par exemple, l'interdiction aux assureurs de refuser des patients en raison de leurs antécédents médicaux, c'est ce que je disais dans l'introduction, et puis la possibilité pour les jeunes de rester couverts par l'assurance de leurs parents jusqu'à 26 ans. Ça, ce sont deux mesures très populaires, mais il est totalement impossible aujourd'hui de garder ces mesures et de supprimer d'autres des dispositions de l'Obamacare.
Il y a vraiment un problème de philosophie à la base, qui est absolument formidable, je crois, parce qu'il permet de comprendre une certaine droitisation du Parti républicain au cours des 20-30 dernières années. Le mandat individuel, au fond, c'est l'idée de Barack Obama, c'est de dire les entreprises, d'une certaine manière, et non l'État, ont le pouvoir, parce que on oblige les gens à souscrire à une assurance auprès des compagnies privées. Donc au fond, l'idée d'Obama, c'est de dire l'État ne doit pas avoir le pouvoir, mais les entreprises. Et ça, c'est très intéressant, parce que savez-vous qui sont les premiers à avoir, dans les années 90, opposé au président Bill Clinton cette idée de donner le pouvoir aux entreprises et non à l'État? Le président Bill Clinton, en 93, avec son épouse Hillary, vient dire « on va faire un système à la française, single payer, c'est l'État qui va prendre en charge ». Et les républicains, notamment menés alors par Newt Gingrich, disent « non, votre système d'État, ça va encore mettre trop d'impôts ». Nous, ce qu'on veut, c'est un mandat individuel. Comme ça, le business va primer. Les gens auront ce mandat individuel. 20 ans plus tard, Barack Obama arrive et dans un signe, je crois, très, très bipartisan, très honnête, il dit « Les Républicains, vous voulez ça? Je vais vous le donner. Voilà votre mandat individuel. » Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les Républicains sont totalement contre ce mandat individuel. La même idée qu'eux-mêmes promouvaient il y a 20 ans. Mais effectivement, quand on veut remplacer Obamacare, comment on fait? Donald Trump, il a deux options. Les entreprises ou l'État. S'il veut remplacer Obamacare, il doit faire un single payer system à la française. Ça n'existe pas autrement.
Et en rajoutant, pardon de couper, mais que pour ceux qui ne sont pas dans une entreprise et qui peut prendre en charge, il faut aussi trouver une solution, parce que on parle là d'entreprises de plus de 50 employés qui ont donc les moyens de prendre en charge un tel système, ou au-dessus de 25 employés qui est un deuxième palier, mais en dessous. Qu'est-ce qu'on fait avec la petite entreprise familiale? Qui va payer à ce moment-là pour ce système? C'est pas celui qui a un seul employé qui peut prendre en charge l'assurance de son employeur. En ce moment, il n'embauche plus.
Alors, ce qui est intéressant aussi, ce que vous disiez, c'est que vous avez mentionné Bill Clinton. Le débat, finalement, il traverse pas que les Républicains. On constate aussi les échecs d'Obamacare au sein même du Parti démocrate. J'ai là la citation de Bill Clinton qui dit, alors les mots sont très forts.
Hein. Citation malheureuse.
Situation malheureuse qui a été critiquée et tout, mais il l'a quand même dite, enfin vous me corrigez, on se retrouve avec un système délirant où brusquement 25 millions de personnes de plus sont assurées, c'est ce qu'on disait au début de l'émission, mais où des gens qui se crèvent au travail jusqu'à 60 heures par semaine sont frappés par des primes qui doublent, vous disiez tout à l'heure effectivement les cotisations qui augmentent, et donc qui voient leur couverture divisée par deux. Donc le débat, il n'est pas du tout que chez les Républicains aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que les démocrates vont pas se battre, ou est-ce que les démocrates vont écouter Barack Obama, qui en avait fait quand même sa grande réforme? Vous voyez les choses comment?
Ah, mais ce qu'a dit Bill Clinton, je disais, citation malheureuse parce qu'on était en pleine campagne électorale et que c'était donné de l'eau au moulin de Donald Trump, bien entendu. En revanche, Bill Clinton avait raison, c'est un système qui n'a pas marché.
Bien sûr.
Donc on est obligé de constater, et il ne faut pas être républicain ou démocrate pour ça, mais quand les gens se saignent à blanc pour se payer leur assurance de santé, c'est un vrai problème. Alors, ça veut
mais
dire quoi?
Est-ce qu'il y a des pistes, des réponses qui aujourd'hui émanent de démocrates qui disent, bon, effectivement, ça marche pas, voilà ce qu'on pourrait faire, ou c'est encore tabou tellement c'est une grande réforme d'Obama?
Ben, je crois que si quelqu'un avait la réponse, ça se saurait. Y a eu des systèmes qui ont fonctionné. Hein. Tout à l'heure, Soufiane évoquait effectivement les propositions républicaines, mais on a eu Romney qui, dans son état, avait mis un système qui était très semblable à celui-là et qui fonctionnait. Donc, c'est pas une affaire de démocrate ou de républicain, c'est une affaire de savoir à un moment comment est-ce qu'on va arriver à assurer la sécurité sanitaire, de santé de tous ces Américains, et comment on va faire pour que tout le monde soit au minimum pas égal, parce que évidemment on n'y arrivera pas. Et dans le système actuel, c'est quand même très compliqué. On n'est pas égal parce que la couverture n'est pas bonne pour tout le monde. Les Républicains le disent très souvent. Vous savez, ces plans, ces premiums dont on parlait, certains sont vraiment très basiques. Mm-hmm. Avec vous avez que le minimum. Vous avez chez le médecin qui est obligé, un parcours de soins très particulier qui vous plaît pas forcément. Il faut aller très loin pour aller voir le spécialiste en question. Et puis, pour des primes colossales qui vont... les premières, c'est 365 $. Ouais. Mais ça peut monter très rapidement.
La moyenne est à 2500.
Oui, voilà, c'est ça. C'est... Et ça couvre les amendes qu'on a, puisqu'actuellement, ce qui a fait voter les gens pour Donald Trump aussi, c'était cette histoire-là. Ce qui courait le plus pendant la campagne, c'était, si je ne suis pas d'accord, je dois payer 2000 $ d'amende.
Et alors, justement, est-ce que ceux qui vont pâtir d'une éventuelle abrogation de la loi ou suppression, je ne sais pas exactement quelle serait, mais ce ne seraient pas aussi les électeurs de Donald Trump?
Absolument, c'est extraordinaire. Je veux dire, on l'a vu dès 2010, des enquêtes ont montré que les premiers bénéficiaires de l'Obamacare, ce seraient typiquement les États du Sud des États-Unis qui, depuis des années, votent républicain. Donc c'est à n'y rien comprendre, mais voilà, les choses sont ainsi. Donald Trump a réussi à se faire élire en promettant aux classes les plus populaires que leur tranche d'impôt va passer de 10 à 12%. Et dans certains États, pas tous les États, mais cette tranche populaire a voté pour Donald Trump. C'est à n'y rien comprendre. Là, pour le coup, c'est très très compliqué. Ça se joue bien au-delà des paramètres, je dirais, purement financiers qui ont poussé ces gens à voter pour Donald Trump. C'est comme ça.
Une sorte d'incohérence de vote, comme on peut voir
aujourd'hui. C'est pas incohérent, je pense que c'est juste un choix. Où, au fond, si ces gens ont bien analysé les choses, leurs impôts vont augmenter, leur couverture santé va disparaître. Mais au fond, il y a quelque chose d'autre dans le programme de Trump qui me fait voter pour lui.
Jean-Yves Brana, vous avez la même analyse?
Oui, non, je crois réellement que l'Obamacare a été un facteur de vote très très puissant, qu'il a amené beaucoup de gens à cocher la case Donald Trump sur la machine à voter.
Absolument.
Parce que c'est quand même le premier poste de dépense hein, pour les familles. Il suffit d'avoir des enfants, donc voilà, ou il suffit d'avoir des parents. Et généralement, on a tous soit des enfants, soit des parents. Donc voilà, des parents qui vieillissent et des enfants qu'il faut soigner, sans parler qu'il faut soigner soi-même. Donc c'est effectivement un vrai souci pour les trois quarts des familles. Et c'est pas politique, on le voit dans son porte-monnaie, mais on le voit dans sa vie de tous les jours.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux. C'est déjà la fin de cette émission. À Jean-Éric Brana, donc maître de conférence à Paris 2, qui sort un livre. Vous pouvez nous rappeler le titre de
bien
votre...
Bien sûr, le titre exact, c'est Make America Great Again, l'Amérique de Donald Trump.
Voilà. Et en face, pour discuter avec vous, c'était Soufiane Al-Sabak, spécialiste des affaires intérieures américaines du Parti Républicain. Vous tenez le blog La Quatrième Voix et vous êtes l'auteur de La Nouvelle Droite Américaine, paru aux éditions Démopolis. Merci également à Florence Ponce, à Julien Lingue. On se retrouve demain pour un nouveau débat avec un sujet très différent, puisque ce sera la Birmanie et les Rohingyas. À demain.